à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour à tous, je m'appelle Charlène Salva, je suis ravie d'être ici pour vous parler de mes recherches sur, attention, je vais essayer d'utiliser des mots gentils pour commencer, les oreilles des mammifères souterrains que j'ai menées durant ma thèse. Et ce travail a été récompensé par le prix Paul Bertrand, G. de Flandre et M. de Flandre-Rigaud, Jean Cuvillier, décerné par l'Académie des sciences. Alors, donc je suis ici pour présenter mes travaux de thèse. Et quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé le 1er octobre 2014 et ça s'est terminé, ma thèse, lors de ma soutenance, le 30 novembre 2017. Cette thèse, je l'ai effectuée au Muséum National d'Histoire Naturelle, dans l'UMR qui s'intitule CR2P, Centre de Recherche de sur la Paléobiodiversité et les Paléo-Environnements. Cette UMR est actuellement sous la direction de Sylvie Crasquin et en co-tutelle entre le CNRS, le Muséum et Sorbonne Université. Comment j'en suis arrivée à faire une thèse? Eh bien, j'ai fait mon master de systématique, évolution et paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, parce que ce n'est pas qu'un lieu de muséum. Il y a bien évidemment, j'espère que tout le monde est allé visiter parce que c'est magnifique. Mais en plus d'un lieu de musée ouvert au public, il y a des scientifiques et il y a aussi des étudiants, des masters, des doctorants, des post-doctorants. Donc j'ai fait mon master là-bas et au départ, je voulais faire ce master pour travailler dans les collections d'histoire naturelle parce que je trouvais ça magnifique, fascinant. Et il se trouve qu'en commençant le master, nous devions trouver des encadrants de stage. Et j'ai rencontré Sandrine Ladevez, qui travaille donc dans cette même UMR. Et nous avons travaillé ensemble sur un sujet de recherche en master 1 et en master 2. À la fin du master 2, nous avons discuté et nous nous sommes lancés ensemble dans l'aventure de la thèse. Donc c'était bien évidemment une première pour moi, mais c'était aussi une première pour elle, puisque c'était son premier encadrement de thèse. Et bien, il a fallu compléter l'équipe d'encadrement. Et donc pour cela, on a fait appel à Stéphane Peignet et Damien Germain. Donc Stéphane apportait la garantie de l'expérience de l'encadrement, donc le côté administratif et de l'expérience de l'encadrement. Et puis Damien apportait le côté technique et maîtrise des méthodes. Et donc, là, on a l'encadrement, on a un sujet que je vais vous raconter plus tard et il manquait le financement. Donc, il a fallu que je passe un concours à l'école doctorale pour obtenir donc une bourse ministérielle pour financer mes 3 ans de thèse. Et donc, pour travailler sur quoi? Eh bien, pour travailler sur les oreilles des mammifères souterrains. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, mais promis, je vais faire ça gentiment. Donc, les oreilles, en fait, quand je parle, moi, dans ma thèse des oreilles, je parle de l'oreille interne. C'est un organe qui se trouve à la base du crâne, pas très loin de notre oreille qu'on voit, nous, à l'extérieur. Et en fait, c'est un organe qui sert à beaucoup de choses, mais les deux principales activités de cet organe, c'est d'un côté l'ouïe, donc c'est l'organe qui nous permet d'entendre. Et là, cette partie-là de l'organe a une forme d'escargot, comme une coquelée qui s'enroule. Et de l'autre côté, l'autre partie de l'organe, c'est ce qu'on appelle le système vestibulaire, c'est des grands mots, des canaux qui sont orthogonaux entre eux, peu importe. Imaginons 3 anneaux qui sont orthogonaux entre eux et cette partie-là va gérer l'équilibre. En fait, ça permet au corps de comprendre comment la tête est située dans l'espace, comment est-ce qu'il faut bouger les yeux par rapport à cette tête pour ne pas tomber à la renverse, etc. Donc je travaille sur cette oreille-là et je travaille sur les mammifères souterrains. Alors les mammifères sont tous les animaux qui ont des poils, donc nous, bien évidemment, mais ça va être le chien, ça va être la souris, le hérisson, et ça va jusqu'à l'éléphant, les cétacés, les baleines, les dauphins, etc. et souterrain, donc ça c'est pas très bien compliqué, ce sont les animaux qui sont capables de vivre sous terre, qui vont vivre dans des terriers, dans des tunnels qu'ils ne vont pratiquement jamais quitter, sauf pour de rares occasions. Mais alors du coup, ça veut dire qu'ils font la plupart de leurs activités sous terre, dans ces tunnels. Donc ils vont se reproduire, ils vont se nourrir, ils vont dormir, ils vont élever leurs petits sous terre. Et on va mettre ça en opposition aux animaux qu'on appelle fouisseurs, ou carrément les animaux qui vivent sur terre, où ils vont peut-être creuser pour trouver à manger, ou simplement pour se faire des petits abris, pour se mettre à l'abri la nuit ou le jour. Alors pourquoi travailler sur ce sujet-là ? La question, elle vient avant de parler de ces animaux actuels. Elle s'occupe des animaux passés, parce qu'à la base, donc, je suis paléontologue, donc je travaille sur les animaux qui n'existent plus aujourd'hui, donc les animaux éteints. Et une des aspirations qu'on a en tant que paléontologue, c'est de comprendre comment ces animaux vivaient. Malheureusement, ce qu'il reste aujourd'hui de ces animaux ne nous permet pas toujours de comprendre comment ils vivaient. Donc ça va être par exemple grâce à la forme de leurs pattes, grâce à la forme de leur corps en général, ou bien même en fonction de l'environnement dans lequel ils se sont trouvés. Des fois, c'est sommaire ou sporadique et ça ne nous permet pas d'avoir tous les indices. Donc le but du jeu, c'était de trouver un nouveau système pour trouver comme un indice, trouver un nouvel indice qui nous permettrait de déterminer la façon de vivre qu'avaient ces anciens animaux. Alors, l'idée, c'était de regarder l'oreille. Et parce que l'oreille est liée à la façon dont l'animal va bouger la tête, va se représenter l'espace qu'il y a autour de lui, qu'il va se diriger dans cet espace, eh bien, on pourrait se dire qu'il y a un lien entre la forme de l'oreille et l'activité de l'animal, et donc ici en l'occurrence, les animaux souterrains. Alors c'est facile, pas tellement puisqu'il a fallu peut-être plus de 3 ans, donc non. Mais en fait, c'est comme, on pourrait comparer ça à une règle de 3. Si on arrive à faire un lien entre une morphologie chez les animaux actuels, donc si on arrive à faire un lien entre la morphologie de l'oreille et un comportement particulier, si ce lien est bien établi, eh bien, sur le même principe qu'une règle de 3, si on a la morphologie chez les fossiles, alors on pourra peut-être trouver son mode de vie de l'époque. Alors, bien évidemment, pour faire ça, eh bien, il faut d'abord commencer pour trouver le lien sur les actuels. Et alors, chez les actuels, c'est magique parce que des mammifères souterrains, donc des animaux à poils qui vivent sous terre, eh bien, il y en a beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Bien évidemment, il y a celui qu'on connaît tous de notre jardin, qui embête les jardiniers, mais qui ne fait vraiment pas de mal, c'est la taupe. La taupe, c'est l'exemple parfait pour un mammifère souterrain. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que bon, déjà, il y a plein d'espèces de taupes. Il y en a beaucoup dans le monde entier. Mais il y a aussi des taupes. Alors, ce que je vais appeler des taupes, c'est donc des mammifères souterrains qui sont très éloignés, je veux dire, phylogénétiquement parlant, donc qui ne sont pas du tout apparentés aux taupes et qui vivent de la même manière. Alors, par exemple, il existe une taupe marsupiale. Donc, les marsupiaux, je vous rappelle, c'est les animaux qui ont des poches, qui vivent en Australie, qui vivent aussi un peu en Amérique du Sud. Et donc, c'est le kangourou, le koala, le wombat. Eh bien, avec tous ces animaux-là, il existe une taupe. Alors, elle est toute petite, hein, elle fait 10 cm, elle est jaune. Elle a des pattes avant avec des grosses griffes, parce qu'elle creuse avec ces griffes-là. Elle a un nez un peu kératiné, parce qu'en fait, elle va nager dans le sable, et donc elle va, comme onduler sa tête dans le sable, et avec son nez, elle va pouvoir pousser le sable. Donc ça, c'est un animal incroyable. Puis il y en a d'autres comme ça. Il y a un tatou taupe. Donc pareil, 10 cm. Alors lui, il est rose. Pareil, il a aussi un nez très, très solidifié. Un museau, un début de museau très solidifié. Il a aussi des grosses griffes. Et puis, on va trouver... Donc, lui, il va être plus proche des tatous que des taupes qu'on a dans le jardin. Et puis, on va trouver aussi des taupes dorées qui, elles, vivent en Afrique. Elles vivent dans les déserts africains, dans le sable. Et donc, elles sont magnifiques. Elles ont, pareil, des pattes très développées avec des griffes très développées pour creuser. Elles, pareil, un nez très, très charnu. Elles sont de couleur jaune irisée et il y en a même une grise avec des irisations pétrole qui est complètement magnifique. Et puis, on va aller voir même des rongeurs. Et chez les rongeurs, il y a beaucoup, beaucoup aussi d'adaptations à la vie souterraine, avec par exemple le rat taupe nu, dont on entend beaucoup parler, ce qui est très étudié par exemple pour toute la recherche sur le cancer. Et donc, chez les rongeurs, on trouve plein d'adaptations aussi à la vie souterraine, avec les dents de devant, les incisives qui sont capables de traverser la gencive pour que l'animal puisse garder la bouche fermée et en même temps creuser sans avoir la terre qui rentre dans la bouche. Donc voilà, on a plein de formes de taupes, de mammifères souterrains. Et en fait, qu'ils ne sont pas du tout apparentés. Et en fait, on appelle ça des convergences. Donc ça veut dire qu'au sein des mammifères, dans toute la multitude de mammifères qu'il y a sur Terre actuellement, il y a plusieurs animaux qui sont adaptés à la vie souterraine. Donc une convergence, ça s'appelle. Et donc, le but du jeu, c'était de faire un lien entre leur morphologie d'oreille et leur écologie. Toutes les études antérieures laissaient penser que ça pouvait exister. Eh bien, il semblerait que non, avec ma thèse. Du coup, la première étude que j'ai faite, c'était de comparer la morphologie de l'oreille avec le comportement chez les animaux actuels, et apparemment, il n'y a pas de lien. Donc, si on ne trouve pas ce lien chez les actuels, chez les animaux qu'on trouve aujourd'hui, impossible d'appliquer ça aux fossiles. Alors, comment on fait pour accéder à cette oreille? Eh bien, allez, on peut soit détruire le spécimen, mais du coup, c'est un peu compliqué parce que ce sont des animaux rares, exceptionnels, qu'on ne retrouve pas beaucoup en collection non plus. Et donc, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas les détruire. Donc, on est obligé de passer par des scanners, des CT scans. C'est pareil que vous, quand vous allez à l'hôpital et que vous faites un scanner médical. En fait, on reconstruit une map de vous en trois dimensions. Et donc, bien évidemment, vous n'êtes pas détruit après ça. Et pareil pour les spécimens. Ça nous permet du coup d'accéder à l'intérieur du spécimen. Donc là, quand je dis un spécimen, c'est un crâne d'un animal qui est donc mort. C'est pas moi qui les ai tués, ils ont été prélevés il y a très longtemps, je vous rassure. On ne tue plus les animaux aujourd'hui. Et donc on a accès à l'intérieur du crâne sans abîmer. Donc on a accès à cette oreille et on peut la modéliser. Alors la modéliser, c'est la remettre en trois dimensions pour voir la forme qu'elle a. Sauf que pour voir scanner tous ces spécimens, il faut avoir de l'argent. Donc, ça va être, pendant la thèse, on apprend ça aussi, faire des demandes de financement. J'en ai eu plusieurs et il y en a un qui est exceptionnel. C'est par exemple le synchrotron de Grenoble, où on a pu aller, mes encadrants et moi, pendant 3 jours. Et donc là, c'est 3 jours où, en fait, on a le laser, le faisceau, qui nous est dédié. Bien évidemment, quelqu'un nous aide, hein. Mais il nous est dédié. Et donc, on ne veut pas perdre de temps. Et donc, on scanne à la suite, jour et nuit. Et on arrive au bout des 3 jours, on est exténué, mais on est tellement content d'avoir toutes ces données. Des données qui sont bien évidemment magnifiques. Donc, ça, c'était extraordinaire. Et puis, des fois, ça a été compliqué parce qu'il a fallu faire des protocoles et des méthodes qu'on n'avait jamais fait. Et donc, j'ai dû collaborer avec un chercheur qui vit en Allemagne. Donc, j'ai dû partir en Allemagne, par exemple, pendant plusieurs mois pour travailler avec lui. Ou des fois, on passait plusieurs soirées et plusieurs nuits tard pour essayer de comprendre comment ses oreilles fonctionnaient. Et puis, après, il faut présenter ses travaux. Et donc, j'ai eu la chance de partir sur plusieurs congrès à l'étranger. Donc, ce sont des congrès scientifiques où plusieurs chercheurs de différents pays se retrouvent pour présenter leurs travaux. Et donc là, c'est une superbe opportunité pour rencontrer des gens qui travaillent sur les mêmes sujets que nous, pour pouvoir confronter et faire avancer nos idées sur différents sujets. Et puis, donc, il arrive la fin de ma thèse, où il faut présenter ses résultats devant un jury, rendre un manuscrit, bien évidemment. Et puis, voilà, ça, c'était une grande journée que la soutenance de thèse. Et malheureusement, un de mes encadrants est décédé quelques jours après ma soutenance. Donc, c'était une fin difficile parce qu'on est très fatigué, très fier et en même temps, une grosse nouvelle, une malheureuse nouvelle qui arrive quelques jours après. C'était pas simple du tout. Et puis la recherche continue. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un financement de postdoc à l'étranger, en Belgique, à Tervuren, au musée d'Afrique centrale, financé par la fondation Fissen. Et voilà, j'en suis là. Merci.